La première persécution générale des chrétiens. Quand le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, plein de grâce et de vérité, vint sur la terre, il ne rencontra en général de la part des hommes que mépris et haine. À la fin de sa vie sainte et pure, il disait avec douleur, « Ils ont vu, haï, et moi et mon Père. Ils m'ont haï sans cause. » Jean 15, versets 24 et 25. Et cette haine ne fut assouvie que lorsqu'ils l'eurent cloué sur la croix. Les disciples du Seigneur, ceux qui croyaient en son nom et s'attachaient à sa personne, devaient-ils être mieux traités que leur maître? Non. Le Sauveur leur avait dit, « Parce que je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, versets 19 et 20. Et les disciples en firent bientôt l'expérience. Nous savons comment, dès le commencement de la prédication de l'Évangile, les apôtres furent jetés en prison et fouettés, comment Étienne fut mis à mort, et comment une grande persécution sévit contre les saints à Jérusalem et les dispersa. Nous nous souvenons de l'apôtre Paul qui, persécuteur d'abord, fut ensuite si ardemment poursuivi par la haine des Juifs lorsqu'il fut devenu serviteur de Jésus-Christ. Mais ces persécutions avaient été jusqu'alors une chose locale. Le pouvoir civil, celui des Romains, ne s'en était pas mêlé. Au contraire, Paul, par exemple, avait pu en appeler à lui pour échapper aux Juifs. Mais les choses changèrent de face. Et la puissance redoutable de l'Empire, qui s'étendait sur tant de peuples et de nations, s'éleva contre les chrétiens et les déclara partout ennemis de l'État. Durant de longues années, avec quelques courts intervalles de répit, les disciples du Seigneur réalisèrent cette parole de leur maître, « Ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront. Vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. » Et vous serez aussi livrés par des parents et par des frères, et par des proches et par des amis, et on fera mourir quelques-uns d'entre vous. » Luc 21, versets 12 à 16. Qu'est-ce qui excitait ainsi les hommes contre les chrétiens? Pourquoi le gouvernement, au lieu de les protéger, les persécutait-il? La réponse est claire et simple. La vie pure et sainte des chrétiens était une condamnation perpétuelle des vices et des mauvaises mœurs des païens, des abominations auxquelles ils se livraient, même sous un prétexte religieux. Les disciples de Jésus mettaient en pratique l'exhortation de l'apôtre « N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les. » Éphésiens 5, verset 11. Et les hommes s'irritaient contre eux, comme autrefois Caïn contre Abel. Caïn tua son frère parce que ses œuvres à lui étaient mauvaises, et celles de son frère justes. La raison des persécutions a toujours été l'inimitié du cœur contre Dieu, contre Christ qui révèle Dieu, et contre les chrétiens qui manifestent Christ. Quant au gouvernement romain, il croyait avoir de bonnes raisons pour sévir contre les chrétiens. En voici quelques-unes. Rome, la grande ville, qui avait la royauté sur les rois de la terre, avait ses dieux particuliers, auxquels elle pensait devoir sa grandeur et son pouvoir. Aucun autre dieu n'était toléré, à moins d'être reconnu légalement. Un des grands écrivains romains dit « Personne ne doit avoir de dieu particulier, ni adorer des dieux nouveaux et étrangers, à moins qu'il ne soit reconnu par les lois publiques. » Or, pour les Romains, Jésus était un dieu étranger non reconnu. C'est ce que disaient déjà les philosophes athéniens après avoir entendu Paul. Il semble annoncer des divinités étrangères, se répétait-il, en l'entendant parler de Jésus et de la résurrection. Il est vrai que les Romains avaient aussi pour principe de laisser à chaque nation qu'ils avaient soumise ses coutumes particulières et sa religion. Quand Démétrius et les ouvriers qui étaient avec lui criaient Grande est la Diane des Éphésiens, on ne leur en faisait pas un crime, mais bien de troubler l'ordre. Cela nous explique pourquoi les Juifs étaient tolérés et non les chrétiens. Les Juifs formaient un peuple distinct qui avait son Dieu. C'est ce qu'écrivait un philosophe grec du second siècle, grand ennemi des chrétiens. Les Juifs sont une nation, ils gardent les institutions sacrées de leur pays, quelles qu'elles puissent être, et en le faisant, ils agissent comme les autres hommes. Il est juste pour chaque peuple de révérer ses anciennes lois, mais les abandonner est un crime. Or les chrétiens n'étaient pas une nation. Ils étaient tirés de toutes les nations, et parmi eux se trouvaient même beaucoup de Romains. En devenant disciples de Christ, ils abandonnaient les dieux particuliers de leur nation et ceux de Rome. Aux yeux de tous les gouvernements, c'était un crime. L'État, chez les Romains, était pour ainsi dire fondé sur leur religion. Elle se trouvait mêlée à toutes les circonstances de la vie civile et politique. Ne pas reconnaître les dieux, parler contre eux, faire abandonner les temples et les sacrifices, c'était renverser les bases de l'empire. Les images de l'empereur, dressées en divers lieux, devaient être révérées. Refuser de brûler de l'encens en leur honneur était un crime de lèse-majesté. Or, un chrétien ne pouvait s'associer à de tels actes qui étaient l'adoration d'un homme. Une note en bas de page, le temps viendra où, d'une manière encore plus formelle, un homme réclamera l'adoration de ceux qui lui seront assujettis. Apocalypse 13, versets 12 à 17.
Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fît que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
Reprise de l'esquisse. Une multitude de personnes, sans compter les prêtres, vivaient de la religion d'une manière ou d'une autre, comme nous en avons vu un exemple à Éphèse dans l'histoire de Démétrius. À mesure que les chrétiens se multipliaient, la source des gains de ces personnes diminuait, et surtout celle des prêtres des innombrables temples et sanctuaires. De là une raison de plus pour détester les chrétiens. Une note en bas de page, Rome seule comptait 700 temples et des autels sans nombre. Reprise de l'esquisse. Le culte des disciples du Seigneur formait aussi un contraste complet avec celui des fausses divinités. Au jour de fête de celle-ci, de nombreuses et imposantes processions, composées de vieillards vénérables, de jeunes gens dans la force de l'âge, de jeunes filles vêtues de blanc, d'enfants, se formaient et traversaient la ville pour se rendre au temple des dieux. Là étaient offerts en grande pompe des sacrifices, et l'encens brûlé sur le feu des autels remplissait les airs de doux parfums. Les chrétiens n'avaient ni temple ni sacrifice. Ils se réunissaient dans quelques chambres hautes pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils s'exhortaient à l'amour et aux bonnes œuvres, et rompaient le pain entre eux en souvenir de la mort de Christ. En se séparant, ils se donnaient le baiser de paix. Comme ils se rassemblaient d'une manière privée, leurs ennemis en vinrent à prétendre que, dans leur réunion, ils s'adonnaient à des pratiques abominables, et c'était un nouveau sujet de haine contre eux. mais un de ceux qui les persécutaient, Pline le Jeune, écrivain romain distingué et gouverneur d'une province, est forcé, dans une lettre qu'il écrivait à l'empereur Trajan, de rendre témoignage à la pureté de leurs mœurs. En même temps que les chrétiens s'abstenaient de participer aux fêtes religieuses païennes, ils évitaient aussi les jeux et les représentations théâtrales qui les accompagnaient d'habitude. À cet égard encore, ils étaient la condamnation vivante de ce qui se pratiquait autour d'eux et qui n'était que manifestation de ce que l'apôtre Jean nomme la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, verset 16. Quel effet produisait cette séparation si entière? D'abord, on prit les chrétiens en pitié, puis on les méprisa, et enfin, on en vint à les haïr comme des gens qui troublaient les autres dans leur jouissance. Ce qui les faisait encore considérer comme ennemis de l'État, c'est que plusieurs répugnaient à être soldats. À ce propos, un de leurs adversaires écrivait « L'empereur ne vous punit-il pas avec justice? En effet, si tous étaient comme vous, qui resterait pour le défendre? Les barbares se rendraient maîtres du monde, et toute trace est de votre propre religion même et de la vraie sagesse disparaîtrait du milieu des hommes, car ne croyez pas que votre Dieu suprême descendrait du ciel et combattrait pour vous. » Une dernière chose qui excitait les esprits contre les chrétiens, c'est que ceux-ci ne pouvaient garder secrètes les saintes vérités qu'ils avaient apprises à connaître et qui remplissaient leur cœur de paix et de joie. Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Marc 16, verset 15, leur avait dit le Seigneur. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Acte 4, verset 20, disaient les apôtres. L'amour du Christ nous étreint, disait Paul. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5, verset 14 et 20. Ainsi, il rendait témoignage à Dieu et à son amour au milieu d'un monde perdu, et annonçait les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, Jean 3, verset 19, et ont de tout temps, d'une manière ou d'une autre, cherché à se débarrasser de ceux qui faisaient briller cette lumière importune. Je viens de dire les motifs qui agissaient sur les cœurs des hommes pour les porter à persécuter les témoins de Christ, et ces mêmes motifs sont souvent allégués aussi de nos jours pour jeter le blâme sur eux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait quelqu'un qui poussait les persécuteurs contre les chrétiens. C'était Satan, l'adversaire, le grand ennemi de Dieu et des hommes. Il se servait de toutes les passions, de tous les mauvais sentiments, de tout ce qui se trouve dans le méchant cœur de l'homme, pour chercher, en détruisant les chrétiens, à anéantir la vérité qui sauve. Il est l'esprit qui opère dans les fils de la désobéissance, le lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et il s'empara de l'esprit du méchant empereur Néron pour le pousser à persécuter les disciples de Christ. Nous allons voir quelle occasion il prit pour le faire. Une note en bas de page. Dans les derniers et terribles temps qui suivront l'enlèvement des saints pour être avec le Seigneur, Satan, chassé du ciel, donnera au chef de l'Empire romain, qui sera alors rétabli, sa puissance et son trône et un grand pouvoir, et il fera la guerre aux saints. Voyez Apocalypse 12, versets 7 à 9.
Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Apocalypse 13, versets 1 à 7.
Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils rendirent hommage à la bête, disant, « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son habitation, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, et peuple, et langue, et nation.
Néron et ceux qui le suivirent en furent comme les précurseurs. Reprise de l'esquisse. Une nuit du mois de juillet de l'an 64 éclata dans Rome un incendie terrible. Commencé près du cirque, il étendit bientôt ses ravages de toutes parts, et rien ne put l'arrêter. Excité par un vent violent, les flammes s'élancèrent dans toutes les directions avec une rapidité inouïe. Et bientôt la grande ville ne fut plus qu'une mer de feu. Durant 6 jours et 7 nuits, l'incendie sévit avec fureur. Temples, palais et maisons furent réduits en cendres. Une multitude de personnes perdirent la vie. Quantité d'autres restèrent sans asile après avoir perdu leurs biens. Des 14 quartiers que comprenait Rome, 4 seulement restèrent intacts. 3 furent absolument détruits. Les 7 autres ne présentaient qu'un amas de ruines. Le feu ne s'arrêta que faute d'aliments, après que l'on fut parvenu à abattre toute une rangée de maisons pour former un vide que les flammes ne purent franchir. La première stupeur passée, on se demanda quel pouvait être l'auteur ou les auteurs d'un si terrible désastre. Les soupçons du peuple se portèrent sur Néron, devenu odieux par ses vices abominables et sa cruauté, lui, meurtrier de sa mère, de son frère et de sa femme. On prétendait l'avoir vu contemplant du haut d'une tour élevée l'incendie, en chantant sur sa lyre les vers d'Homère qui décrivent la conflagration de Troie. On alla jusqu'à dire que le feu avait été mis par son ordre, afin qu'il pût jouir de cette vue, et afin d'avoir la gloire de rebâtir la ville sur un nouveau plan, et d'y ériger pour lui-même un magnifique palais. Afin de détourner de lui l'indignation publique, Néron, connaissant la haine du peuple contre les chrétiens, accusa ceux-ci du crime qu'on lui imputait, et les condamna au plus affreux supplice. L'historien romain Tacite, qui à cette époque était un enfant, nous en parle. Néron, dit-il, chercha des coupables et fit souffrir les plus cruelles tortures à des malheureux que le peuple nommait chrétiens, nom qui leur venait de Christ, condamné à mort sous Tibère par Ponce Pilate. On commença par saisir ceux qui s'avouaient chrétiens, puis, sur leur déposition, une multitude d'autres. À leur supplice, on ajoutait la dérision. On les enveloppait de peaux de bêtes, et on les faisait déchirer et dévorer par des chiens. D'autres étaient crucifiés, d'autres encore, attachés à des pieux, les vêtements et le corps enduits de résine, servaient comme de flambeaux pour éclairer la nuit. Néron avait donné ses propres jardins pour ce spectacle. L'excès de ses supplices fit que le peuple se sentit ému de compassion pour ses victimes, qui semblaient moins être mises à mort pour le bien public que pour satisfaire la cruauté d'un homme. Comment ces martyrs supportèrent-ils ces cruels tourments? Aucun récit ne le rapporte, non plus que leur nom que Dieu seul connaît. Mais nous pouvons être sûrs que celui pour le nom duquel ils souffraient les soutint par sa grâce, afin qu'ils fussent fidèles jusqu'à la mort. Ils auraient pu racheter leur vie et éviter ses souffrances en reniant Christ, mais ils le confessèrent, préférant souffrir pour lui pendant un peu de temps et régner bientôt avec lui. Il n'y avait pas longtemps que Paul avait quitté Rome, et ils avaient la lettre qu'autrefois il leur avait adressée. Ils pouvaient se rappeler, dans leur tourment, et les exhortations et ces paroles du bienheureux apôtre, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Ils étaient ainsi soutenus et élevés au-dessus de tout ce que la rage des hommes inventait, et pouvaient s'écrier en triomphe, « Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ ? Tribulation ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée ? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Romains 8, versets 18 et 35 à 39. Cette première persécution dura, avec plus ou moins de violence, jusqu'à la mort de Néron qui se fit tuer par un esclave en l'an 68, haï de tous, poursuivi par ses soldats et le Sénat révolté. C'est de lui que Paul parle en disant « J'ai été délivré de la gueule du lion ». Il avait donc entendu l'Évangile, mais il ne le reçut pas et mourut misérablement et accablé de terreur. C'est dans la persécution suscitée par lui que Paul, revenu à Rome, et Pierre subirent le martyre et allèrent vers le Seigneur. Quel contraste ! Telle fut la première persécution générale ordonnée par la puissance impériale contre les chrétiens. Nous vivons dans des temps paisibles. Nous pouvons bénir Dieu de ce qu'il retient la méchanceté de Satan et nous permet de rendre notre culte sans empêchement. Mais rappelons-nous que, quand le diable n'use pas de violence, il se sert de la ruse et cherche à endormir les âmes dans une fausse sécurité, en faisant croire à plusieurs qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils ne font pas reposer leur espérance sur Christ. On voit des foules remplir chapelles, temples et lieux de réunion, mais si des soldats étaient postés aux portes pour traîner en prison ceux qui sortent, les auditeurs seraient-ils aussi nombreux? Dieu veuille que nos cœurs soient attachés à Christ, de telle sorte que rien ne puisse nous séparer de lui.